Radio Capi.
Oh, Capi.
Le journal présenté par Pascal Masserica.
Les titres de l'actualité, signature aujourd'hui à Kinshasa d'un accord en matière de défense et de sécurité entre la RDC et le Burundi. Objectif affiché, renforcer la sécurité des deux pays. Peu avant, le président Félix Tshisekedi a échangé avec son homologue Évariste Ndayishimiye. Début du dégagement des obstacles à l'exécution de la construction de la route qui va de Mbujimayi à Kananga. L'inquiétude grandit cependant autour du débordement des eaux venant de l'aéroport au cas où ces travaux ne sont pas coordonnés par l'entreprise égyptienne. Notre invité, c'est le coordonnateur du Forum des engagés pour le développement durable. John Lufuru-Karibu appelle les communautés locales à s'opposer à l'exploitation du pétrole autour du lac Albert par des entreprises françaises. Madame, Messieurs, bonsoir. Le Burundi et la RDC ont signé ce lundi au Palais de la Nation ici à Kinshasa un protocole d'accord bilatéral en matière de défense et de sécurité. Objectif affiché, renforcer la sécurité dans les deux pays. Peu avant, les présidents burundais Évariste Ndayishimiye et son homologue de la RDC, Félix Tshisekedi Tshilombo, ont échangé sur des questions infrastructurelles, commerciales et autres. Le président Évariste Ndayishimiye achève ainsi un séjour de 48 heures ici à Kinshasa. D'autres aspects de cet accord avec vous, Billy Valutumba.
L'accord militaire que le Burundi signe avec la RDC n'a aucunement l'intention d'interférer dans la mission que mène la communauté des États de l'Afrique de l'Est, précise Ndayishimiye. Pour lui, la RDC et le Burundi sont comme l'écorce et l'arbre et donc ils doivent préserver leurs intérêts de manière commune. Évariste Ndayishimiye.
En dehors de la mission de l'EAC, il y a d'autres missions de défense commune. Nous avons des frontières communes, nous avons des criminels transnational. Alors, ces criminels, nous devons toujours les gérer. Les pays ont toujours leurs missions qu'ils exécutent ensemble dans le cadre de coopération bilatérale. Nous avons des intérêts communs à défendre.
Dans le domaine commercial, en vue de faciliter les transactions entre les deux pays, les deux chefs d'État ont convenu de la nécessité de créer des agences bancaires burundaises et congolaises à Bukavu, Uvira, Bujumbura et Rumonge. Dans la même optique, ils ont appelé au renforcement des échanges d'expériences et d'expertise entre les ministères sectoriels dans le domaine de l'agriculture, des infrastructures et de l'industrie. Des questions d'ordre sécuritaire ont également été évoquées.
L'exigence de la RDC reste la même. Nous demandons que la force régionale soit plus active à l'image du contingent burundais parce qu'à certains endroits, il est observé un certain laxisme. C'est ce qu'a affirmé le chef de l'État congolais par rapport à l'option prise par l'organisation EAC concernant l'attitude des rebelles du M23 de ne pas se conformer au processus de Nairobi. Félix Tshisekedi répondait à une question de Billy Valutumba.
Nous sommes dans un stade d'observation parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises et je dis que le discours était corsé. Ces décisions sont d'application immédiate. Il s'agit donc d'engager le M23 à respecter les termes de ces processus et feuilles de route. Il est prévu, selon le président en exercice de notre communauté, la tenue très prochaine d'un sommet de l'EAC pour justement se pencher sur la question. En attendant, nous allons observer sur le terrain pour voir si le M23 finalement va accéder à cette recommandation. Dans le cas contraire, nous en tirerons les conséquences lors du prochain sommet. Évidemment, notre exigence reste la même. Nous demandons à ce que la force régionale soit plus active, à l'image évidemment du contingent burundais, parce que à certains endroits, on continue d'observer une sorte de laxisme vis-à-vis des autres contingents qui, notamment, autorisent la perception de taxes par le M23, ce qui est totalement illégal et inacceptable. Et cela ne va pas continuellement s'éterniser comme ça sans que nous puissions réagir.
La communauté des États de l'Afrique de l'Est tient à sa mission de mettre fin à la présence des groupes armés locaux et de surcroît à amener les rebelles du M23 à se conformer aux prescrits du processus de Nairobi. Déclaration faite aujourd'hui par le président burundais lors d'un point de presse conjoint avec son homologue de la RDC. Dans le communiqué final qui a sanctionné cette visite, les deux chefs d'État déplorent le fait que le M23 n'a pas la volonté de se désengager. étrangers. Les propos du chef de l'État burundais ont été recueillis par Billy Valutumba.
Nous voyons que les autres groupes armés congolais ont accepté de déposer les armes, mais le M23 toujours est récalcitrant. C'est pour cela que nous demandons que nous tous nous devons nous coaliser pour le contraindre à respecter le cessez-le-feu, à se désengager pour aller dans le centre de cantonnement afin d'entamer le processus de DR. Donc la région, notre position est que la RDC doit recouvrer la paix. Et maintenant, nous préparons un sommet d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations du sommet de la fois passée qui s'est tenu à Bujumbura. Et la région pourra quand même prendre des mesures qui s'imposent pour que, effectivement, le M23 respecte le processus afin d'assurer la paix et la sécurité dans cette région. La région aussi félicite le gouvernement congolais de ses efforts. Nous le demandons de continuer pour effectivement contraindre lui aussi, l'M23, à se désengager. Nous sommes venus pour appuyer le gouvernement, alors le gouvernement doit prendre le devant.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, le président de la société civile de la localité de Mamove, dans le territoire de Bénin, dresse un bilan sombre des attaques des rebelles ougandais de l'EDF dans plusieurs villages. Akinos Katuo parle de 39 personnes qui ont été tuées en l'espace de 3 jours la semaine dernière, ce qui porte à 125 le nombre de personnes tuées depuis le début du mois. Il sollicite par conséquent l'intervention des forces conjointes FARDC et UPDF. Il a été joint par André Kitenge.
Le bilan des attaques NALU sur la paisible population dans le territoire de Beni, secteur de Beni Mbao, groupement de Batangi Mbao, localité de Babela Bakaïku, du jeudi au samedi 26 août, est de 5 personnes tuées à Mangungu, 10 personnes tuées à Mamvua, 7 personnes tuées à Bandenge, 7 personnes tuées à Nzakia et 10 personnes tuées à Ilak. Au total, nous avons 39 personnes tuées pour 3 jours, 125 personnes tuées dans un mois dans la chefferie de Walesse-Vukutu et la localité de Babila Bakaïku de Mamovin. Au gouvernement congolais de renforcer et équiper l'effectif de nos vaillants militaires qui sont sur les chars de bataille, surtout dans le secteur de Benimbao. Nous sollicitons la force conjointe pour prendre des mesures adéquates en frappant totalement ces ADF dans la même façon comme sont frappés dans les Bachu et dans les Rwenzori.
Dans un autre chapitre, un début ce week-end à Mbujimayi du dégagement des obstacles à la construction de la route nationale qui va de Mbujimayi à Kananga. Le ministre provincial des Travaux publics s'inquiète cependant de la perturbation de la connexion Internet et du débordement des eaux des ruissellements venant de l'aéroport au cas où ces travaux ne sont pas coordonnés par l'entreprise égyptienne à Mbujimayi, Esterne Dalafina.
Parmi les obstacles qui sont en train d'être dégagés de la voie routière, on y trouve la grande conduite d'eau de la régie des eaux, la tuyauterie des Azurep, association des usagers des réseaux de distribution d'eau, la fibre optique, quelques maisons construites sur l'emprise de la route, les poteaux électriques de la Société nationale d'électricité, ainsi que ceux transportant les lampadaires solaires. Pour l'entreprise égyptienne, ces objets constituent des obstacles aux travaux de construction et de modernisation de la RN1 dans son axe Mbujimayi-Kananga, raison pour laquelle les travaux qui ont commencé il y a 2 mois au niveau d'une dizaine de kilomètres de la ville sont désormais délocalisés au kilomètre zéro au niveau du rond-point Petrombou ex-Kalalawankata. Malgré la délocalisation de ces objets jugés comme obstacles, le ministre provincial des Travaux publics et Infrastructures souhaite que l'entreprise égyptienne accepte de coordonner les travaux avec d'autres entreprises qui exécutent également certains projets sur la ville pour éviter les conséquences néfastes dont notamment la perturbation de la connexion Internet, la coupure d'eau ainsi que les débordements des eaux de ruissellement. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Bonne nouvelle pour les habitants de la ville de Bandundu. La SNEL a rétabli hier dimanche après-midi l'électricité dans les quartiers qui étaient dans le noir depuis le mois de février suite à une panne technique du transformateur de la sous-station locale de l'entreprise. C'est à la satisfaction des habitants à Bandunduville, Irène Boma.
C'est l'ambiance observée dans la nuit du dimanche dans certains coins de la ville de Bandundu, notamment au quartier Monisco, Caravane, Loani, Frontière, Bois Rouge, Moussaba, Salaminta, Ntoluzingu, Collège et autres. C'est là parce que les habitants de ces quartiers qui étaient plongés dans les noirs pendant au moins 6 mois et 16 jours à cause de cette panne technique du transformateur viennent de voir encore la lumière de l'électricité. Face à ces rétablissements du courant électrique, certains d'entre eux ont manifesté leur jubilation en ces termes. Nous remercions la SNEL. Nous sommes très contents. Enfin, le courant s'est rétabli.
Nous sommes très très contents, le courant est là. Maintenant, la vie est redevenue normale.
C'est une bonne nouvelle, nous sommes contents.
Dans la foulée, le directeur provincial de la SNEL, Kouilou, Prosper Bakoukou, a précisé ce qui suit.
Par-ci, par-là, il y a eu des incidents qui ont touché le réseau SNEL en volant certains câbles. C'est ce qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, là où on avait volé des câbles, dans les courants, on n'a pas remis là-bas. Nous allons nous battre pour voir comment remettre partout du courant pour que la population soit contente.
Prosper Bakoukou invite la population de Bandundu à faire confiance à sa société qui, selon lui, est toujours au service de ses abonnés. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Lancement vendredi dernier des travaux de construction du pont situé entre les territoires de Beni au Nord Kivu et Mambasa en Ituri. 5 mois après l'effondrement de l'ouvrage, les usagers ont eu des sérieux ennuis pour voyager entre le Nord Kivu, l'Ituri et la Tchopo, ce qui impacte négativement sur les recettes provinciales de ces trois entités territoriales. Reportage à Bounia de Sadiki Aboubakar.
Dans une déclaration à la presse, l'administrateur du territoire de Mambasa en Ituri a annoncé le début vendredi 25 août dernier des travaux de construction du pont Ituri 2 par l'Office des routes. Depuis 5 mois, cette situation cause d'énormes difficultés aux usagers de cette route. Kambale Kahesi Riziki, responsable d'une agence de voyage qui relie les villes de Butembo Beni à Kisangani.
Le bus quitte Kisangani et puis l'autre quitte Butembo, ça se rencontre là où le pont s'est cassé. On fait le déchargement des bagages, puis on fait traverser les bagages vers le bus qui a quitté Kisangani, puis on charge encore les bus.
Au-delà de ces difficultés, les agences de voyage font face à un autre problème, tel qu'explique Kaes Riziki.
Et au niveau des ports, vous savez, il y a l'embouteillage. On ne sait pas vraiment surveiller les bagages. Alors, en arrivant à Kisangani, on peut constater qu'il y a un colis qui a disparu. Et c'est l'agence qui paye.
L'effondrement du pont Ituri 2 a également réduit le trafic sur cette route nationale, ce qui a un impact sur les recettes provinciales de l'Ituri. Le chef des ressorts de la DGRPI Mambasa affirme qu'ils ont constaté une baisse sensible des recettes à l'échelle des 10% des réalisations. Encore 2 mois de patience, dit-on, du côté de l'Office des routes. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Retournons un instant au Nord Kivu où à une semaine de la rentrée scolaire, il n'y a jusque-là aucun signe de l'ouverture de dizaines d'écoles primaires et secondaires de Rutshuru et d'une partie de Masisi et de Nyiragongo. Cette inquiétude émane du coordonnateur du mouvement citoyen dit la vision pour la victoire du peuple. Héritier Gachegou affirme à Radio Okapi que des milliers d'élèves risquent de passer une troisième année blanche si rien n'est fait par le gouvernement congolais. Il s'est confié à Bernard Nyangi.
Ça fait maintenant 2 ans que les enfants ont déjà perdu, comme d'aucuns l'ignorent. Depuis 1998, à l'occupation des forces rwandaises dans plusieurs territoires de la RDC, il n'y a jamais eu des années blanches. Et l'État congolais a assumé toutes ses obligations salariales en faveur des enseignants. Voilà maintenant l'épisode de 1-23 vient s'enregistrer dans ces 3 territoires. Les politiques prennent cela comme un prétexte pour que les enfants ne puissent pas venir étudier. Nous dénonçons cela parce que non seulement ces territoires sont dans une période de ni-paix-ni-guerre orchestrée par le gouvernement congolais qui ne veut pas donner la paix pour que ces territoires puissent revenir dans les espoirs. Et donc nous demandons à l'État congolais, tous les secteurs, toutes les organisations syndicales de permettre que les enfants reprennent les chemins de l'école. À 1-23, d'abandonner cette intimidation de pouvoir recruter de force les enseignants et les élèves dans les milieux sous son occupation.
Actualité internationale.
Les États-Unis ont déploré ce lundi l'existence d'un parti pris contre l'opposition politique lors de l'élection au Zimbabwe, dont le président sortant a revendiqué la victoire et appelé en même temps à davantage de transparence sur le résultat. S'appuyant sur les constats d'observateurs régionaux, le département d'État américain a évoqué aujourd'hui le parti pris systématique contre l'opposition politique durant la campagne électorale. Le chef de l'opposition a contesté hier la réélection
réélection du président Emmerson Mnangagwa à l'issue d'une élection dont la régularité a été mise en cause. Et puis le président français a réfuté ce lundi à Paris tout paternalisme et toute faiblesse de son pays en Afrique, alors que le Sahel fait face, selon lui, à une épidémie de putsch. Devant les ambassadeurs de France réunis à l'Élysée, Emmanuel Macron a appelé les pays du Sahel à avoir une politique responsable en la matière.
L'invité.
Notre invité, c'est le coordonnateur du Forum des jeunes engagés pour le développement durable, John Lufula Karibu, parle de la campagne initiée pour sensibiliser les communautés locales à s'opposer à l'exploitation du pétrole autour du lac Albert par des entreprises françaises. Il s'entretient avec Ezekiel Mouzalia.
John Lufula Karibu, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Stop EACOP, stop pétrole dans les blocs pétroliers 1 et 2. Qu'est-ce qu'on peut retenir justement de cette campagne?
Oui, en fait, comme la communauté locale riveraine du lac Albert, où se trouve le bloc 1 et 2, est déterminée de ne pas recevoir le projet de la République démocratique du Congo, donc la vente à jachère des blocs pétroliers, les 27 blocs. Maintenant, le bloc 1 et le bloc 2 se trouvent justement dans la province de l'Ituri, dans les territoires de Mahagi, d'Enjougou et d'Irumu. Alors, comme les communautés savent très bien et ils sont prêts pour défendre leurs moyens de subsistance, c'est-à-dire le moyen de survie, la pêche et le lac, qui est une ressource à nous, c'est pour cela que nous avons lancé cette campagne pour réconcilier, pour mettre le point d'éclaircissement entre le gouvernement et les communautés.
Quelles sont les ressources qui sont dans ces blocs 1 et 2, qui prennent une bonne partie justement de la province de l'Ituri?
La première ressource qui est en danger, c'est le lac Albert. Le lac Albert attaque une ressource qui est le moyen de subsistance au moins de 100 000 familles. On a enregistré 100 000 familles, des Rukwanzi jusqu'à Kolokoto à Mahagi. Ces communautés, quand on les a racontées, disent que le pétrole, c'est une malédiction. Parce qu'ils savent ce que le pétrole a fait à nous.
C'était l'invité de Radio Okapi, le coordonnateur du Forum des engagés pour le développement durable. John Lufula Karibu parlait de la campagne initiée pour sensibiliser les communautés locales à s'opposer systématiquement à l'exploitation du pétrole autour du lac Albert par des entreprises françaises. Il a été interrogé par Ezekiel Mouzalia. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir écouté. Merci à Richard Junior Kamunga qui l'a coordonné sous la supervision de Martin Sebou Djangwe.